OK, on va parler d'alcool, vous le savez. Si vous avez la mauvaise idée de boire et de conduire, la police va vous faire, comme on dit en bon québécois, va vous faire souffler dans la balloune. C'est la façon de détecter là à quel point vous avez bu, le taux d'alcool dans le sang. Ben, il semble qu'on puisse mesurer. Là, il y a une invention japonaise qui pourrait peut-être mesurer le taux d'alcool dans le sang grâce à vos oreilles. Oui, grâce à l'air qui sort de vos oreilles. Non, n'ajustez pas votre appareil. On n'est pas le 1er avril. C'est au contraire très, très vrai. On en parle avec Martin Carly, docteur en sciences neurologiques, co-animateur de l'émission Génial et génial vulgarisateur scientifique. Salut Martin.
Salut Patrick.
T'as lu la même nouvelle que moi dans Slate. C'est quoi cette histoire-là qui veut qu'on puisse mesurer à quel point on est ivre par nos oreilles?
Oui, ben écoute... essentiellement, on utilise le même principe que lorsqu'on souffle dans les kilomètres. Donc, ce que les appareils qu'utilisent les policiers présentement nous demandent de souffler une certaine quantité d'air. Et dans cet air-là, va se retrouver des molécules volatiles. Par exemple, l'alcool, qui lui est volatile, donc va se retrouver dans cet air-là. Cet air-là, on le souffle dans la machine et la machine peut analyser le taux, finalement, d'alcoolémie dans notre sang. C'est sûr que ces chercheurs-là, c'est des chercheurs japonais qui ont mis ça au point, ben ils sont attaqués à un problème qui arrive de temps en temps. Physiquement, souffler sans arrêt pendant 30 secondes dans les kilomètres, c'est pas si facile que ça. Puis il y a des gens qui profitent peut-être de ça pour tricher un petit peu, on va dire, en disant « non, je suis pas capable de souffler, c'est impossible, j'ai pas les capacités pulmonaires pour ça ». Alors, ces chercheurs-là se sont dit « OK, parfait, mais on peut pas tricher à travers la peau ». Donc, ils ont voulu utiliser la peau au lieu de l'air dans nos poumons pour mesurer le taux d'alcool dans le sang. Alors, comment ça marche? Ben, essentiellement, cet alcool-là, qui est volatile, va s'échapper des vaisseaux sanguins. Ils vont juste aller chercher donc ces vapeurs-là au niveau de vaisseaux sanguins qui sont très petits, c'est le cas dans nos oreilles, et où la peau est très mince. C'est le cas aussi au niveau des oreilles. Et en plus, au niveau des oreilles, il y a un autre avantage. On a très, très peu de glandes sudoripares, donc on ne transpire pas beaucoup, ce qui viendrait fausser les mesures. Donc, c'est une technique là, qui pourrait révolutionner la façon de mesurer le taux d'alcoolémie chez les policiers, mettons.
Écoute, il semble aussi là, que les l'éthylomètre comme ça présente les mêmes résultats que l'air qui sort des oreilles.
Oui, absolument. Donc, ils ont exactement les mêmes résultats. Et ce qu'ils ont fait dans l'étude, essentiellement, ils ont modifié un casque de protection pour les oreilles, là, les fameuses coquilles là, qu'on voit, par exemple, sur les chantiers de construction, oui, quand il y a trop de bruit. Et ils les ont modifiés pour être capables de faire entrer de l'air dans ces coquilles-là lorsqu'elles recouvrent nos oreilles et faire ressortir de l'air après. Et c'est cet air-là qui est analysé. Et là, ils ont demandé à des cobayes donc de prendre ce système-là pendant plusieurs heures en buvant à certains moments de la journée. Et ils étaient capables vraiment de voir la fluctuation dans les taux d'alcoolémie là, avec un délai d'environ 13 minutes. Là. Donc, 13 minutes après avoir ingéré une certaine quantité d'alcool, ils voyaient déjà les résultats au niveau des oreilles grâce à ces coquilles modifiées-là.
Très intéressant, mais on répète aux gens que c'est toujours mieux de prendre un taxi quand on boit. Martin, tant qu'à t'avoir au bout du fil, écoute, je veux t'entendre sur cette nouvelle-là qui est sortie cette semaine. C'est fascinant, ça nous vient de Russie. Il y a un animal microscopique qui est appelé rotifère bdelloïde qui est revenu à la vie après avoir été congelé pendant 24 000 ans. Comment c'est possible, ça?
Ben, ça, c'est vraiment le bout qui est très intriguant parce que très peu d'organismes... qui ont été congelés sur d'aussi longues périodes comme ça, qui sont revenus à la vie. Et en plus, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on est dans un des rares exemples d'organismes multicellulaires. Fait que c'est pas juste une cellule comme une bactérie qui est revenue à la vie après un certain temps. On parle ici d'une sorte de petit ver. Comment ils l'ont trouvé? Ben, ils ont prélevé une sorte de carotte là, dans la glace là, d'une rivière en Sibérie. Et dans cette carotte-là, ils ont identifié ce micro-organisme-là. Oui. Ils l'ont, en se réchauffant, il est revenu à la vie, première surprise. Ils ont utilisé la datation au carbone 14 pour déterminer que cet être-là avait environ 24 000 ans. Disons que ça dépasse notre espérance de vie à nous autres, on va se le dire. Et non seulement ça, mais il a été par la suite capable de se reproduire en se divisant, donc en se clonant lui-même. Donc, c'est comme s'il était revenu à la vie, comme si rien s'était passé. c'est vraiment très intriguant. Les chercheurs veulent comprendre qu'est-ce qui se passe parce que ça pourrait éventuellement avoir des applications de toutes sortes. On peut même penser, par exemple, chez les humains, on pourrait appliquer ça. Comment est-ce qu'on peut congeler ou refroidir le corps au point où on arrête le métabolisme et il va fonctionner par la suite? Donc, c'est vraiment très, très fascinant. Et là, au moins, on a un organisme là, qui a plusieurs cellules qui fait ça.
Mais Martin, c'est un vieux rêve humain que d'assurer sa propre... comment on dit ça?
Sa pérennité.
Sa pérennité, là, tu sais, d'être immortel. Puis, écoute, c'est pas Walt Disney qui avait voulu se faire congeler là, par cryogénie pour pouvoir être réanimé plus tard?
Ben, de mémoire, c'est une légende urbaine, mais c'est vraiment... On l'entend beaucoup, effectivement. Le problème qu'on a, par exemple, si on veut congeler des tissus vivants, c'est que si on les congèle pas assez vite, ben là, essentiellement, l'eau va former des cristaux qui vont faire éclater les cellules. Imaginez à la maison, là, quand on a peur que la glace fasse péter nos tuyaux, ben c'est à peu près ça qui peut se produire quand tu veux congeler un corps, un être humain ou ainsi de suite. Donc, c'est pas simple de dire on va cryogéniser un humain. Puis, quand on a retrouvé un traitement pour sa maladie, ben là, on va le traiter en le décongelant. Disons, là, on est vraiment dans la science-fiction, on s'entend, là, parce que la découverte, là, on parle ici d'un petit verre de plusieurs cellules qui est capable de revenir à la vie, puis on n'a pas découvert tous ces mystères. Mais c'est intéressant parce que ça montre que dans la nature, il y a toutes sortes d'exemples dont on pourrait s'inspirer pour peut-être ouvrir de nouvelles portes, de nouvelles voies de traitement là, à des conditions humaines. C'est ça qui est intéressant quand on trouve là, des êtres comme ça exceptionnels.
Toi qui es très bon pour nous expliquer les mystères de la vie, est-ce que tu peux nous prédire en combien de matchs le Canadien va gagner contre Vegas?
Ah, ben là, est-ce que je vais jinxer la chose? Ah, honnêtement, comme je disais à mon garçon tantôt, on était dans l'auto, moi je trouve que Vegas, c'est une équipe qui ressemble aux Jets, mais en mieux. Donc, je pense que le Canadien pourrait bien s'en tirer. Je veux dire, Canadien en 6, tiens, je me mouille.
Bon, tu t'es mouillé, puis ça se t'a... J'espère que ça ne va pas t'être reproché, cher Martin.
J'espère que non.
Salut. Bon week-end. Merci, Martin.